Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre église à travers les siècles.
Bonjour Lucien.
Bonjour Luc. Bonjour à tous et toutes.
Alors nous revenons toujours sur ce pape qui a eu la particularité, je parle de Benoît XV, qui a eu la particularité de commencer son pontificat au moment de la Première Guerre mondiale.
Oh oui.
Avec tous les bouleversements qui se sont opérés à ce moment-là.
Oui. Et il faut, je le rappelle parce que je l'ai déjà dit la dernière fois, la situation du siège de Rome, au siège épiscopal, papal de Rome, est très particulière. Il n'y a plus d'États pontificaux. Et le Vatican, où siège le pape, n'est pas un État à l'époque, ce sera plus tard. Donc le pape n'a pas de statut parmi les nations. Mais en même temps, il y a une situation particulière, car il y a des États qui ont des ambassadeurs et d'autres qui n'en ont pas. Je rappelle qu'il se trouve que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont des ambassadeurs auprès du pape. Mais la Russie, l'Angleterre et la France, qui a rompu les relations diplomatiques, n'ont pas d'ambassadeur, parfois il y a un représentant, mais c'est tout. Donc, certains vont accréditer l'image que le pape est plus favorable aux Allemands et Austro-Hongrois qu'aux Alliés. En Allemagne et Autriche-Hongrie, on répand davantage l'idée que le pape est francophile. Bref, le pape est souvent dans de véritables tenailles. Après la bataille de la Marne, eh bien, chacun des deux camps va essayer de nouveaux pays dans sa coalition. La diplomatie vaticane là va aller à l'encontre des alliés parce que elle s'efforce d'empêcher l'entrée de nouveaux pays dans ces coalitions, et notamment l'entrée des États-Unis, l'Italie et les États-Unis qui entrent dans la coalition, alors que le pape souhaiterait justement ne pas étendre le conflit. Il y a aussi la question de la Belgique. Le pape a été tout à fait contrarié par l'occupation de la Belgique. Mais il ne veut pas prononcer une condamnation officielle parce qu'il est en train d'essayer de trouver une paix de compromis. En fait, chaque camp avait ses intelligences à Rome et les uns comme les autres a pu accuser le pape de favoriser l'adversaire. Alors le pape Benoît XV va tenter une opération beaucoup plus importante qui malheureusement n'aboutira pas. Son désir, c'est d'éviter ce qu'il appelle le suicide de l'Europe civilisée. Et je pense que cette expression est tout à fait juste quand on sait le nombre de morts qu'il y a eu, les millions et les millions de morts. Le pape aurait voulu arrêter ce conflit. Il voulait empêcher l'éclatement de l'Autriche-Hongrie, qui était un bastion du catholicisme. Il voulait aussi ne pas offrir, je dirais, une proie trop facile au socialisme qui était en train de gagner en Russie. Donc il propose, il fait un plan et il propose que la Belgique soit totalement évacuée et le territoire français occupé par l'Allemagne aussi. Il propose qu'on restitue à l'Allemagne ses colonies. Il faut reconnaître la liberté des mers, ce qui ne plaît pas à l'Angleterre. Il faut renoncer à toute indemnité de guerre, sauf s'il y a des raisons particulières pour demander réparation. Et il voudrait que on examine dans un esprit de conciliation les litiges territoriaux entre l'Italie et l'Autriche, entre l'Allemagne et la France, en tenant compte, ça je cite, en tenant compte dans la mesure du juste et du possible des aspirations des peuples et à l'occasion en coordonnant les intérêts particuliers au bien général de la grande société humaine. On voit par là que Benoît XV avait une vision très large. Mais justement, cette demande que l'esprit de justice et d'équité s'impose dans l'examen des questions territoriales et politiques, il évoque aussi la question de l'Arménie, des États des Balkans, des territoires faisant partie de l'ancien royaume de Pologne, auxquels en particulier ses nobles traditions historiques et les souffrances endurées, spécialement pendant cette guerre actuelle, doivent justement concilier les sympathies des nations. Bref, voilà le plan que propose Benoît XV. Mais il rencontre l'hostilité des alliés. Parce que depuis que les États-Unis sont entrés en guerre, ils sentent que la victoire est à eux. Et donc ils ont l'impression qu'accepter le plan de Benoît XV, ce serait renoncer à une victoire plus complète. En France, il y a quelqu'un qui prône la guerre jusqu'au bout. C'est Clémenceau, qui s'oppose d'ailleurs à un certain nombre de courants de gauche plus pacifistes. L'offre de médiation irrite l'Angleterre, parce que la liberté des mers ne lui convient pas. La France s'indigne, ainsi que l'Italie. La France, pour laquelle le retour de l'Alsace-Lorraine ne se négocie pas. Ça sera imposé. Donc, cette initiative pontificale va être un échec. Et les catholiques, je prends par exemple l'exemple de la France, les catholiques ne vont pas du tout mordre à ces orientations. Le clergé et les religieux ont été impliqués dans la guerre. Ça a été d'ailleurs un élément de réconciliation. Des prêtres sur le front, dans les tranchées, des religieux. Ça met un frein un peu à une certaine forme d'anticléricalisme. Mais ça veut dire aussi qu'ils entrent dans cette espèce de patriotisme belliqueux et ils trouvent que le pape ne leur propose pas quelque chose d'acceptable. Le père Sertilange, un dominicain très connu en France comme prédicateur, déclare dans l'église de la Madeleine, au cardinal Hamet, très Saint-Père, qui le transmettra, très Saint-Père, nous ne pouvons pas pour l'instant retenir vos appels de paix. Donc, en Allemagne, c'est l'inverse. On reproche au pape d'être beaucoup trop conciliant avec la France, avec les alliés. Et en France, on a été jusqu'à traiter Benoît XV de pape boche. et en Allemagne de francophiles. Bon, la guerre finit par se terminer.
Quatre ans plus tard.
Enfin, pas quatre ans après cet effort, c'était en 1917.
Mais
ça aurait épargné encore des millions de morts. Bref, au lendemain de la guerre, il y a un élément dont le pape est très heureux, c'est la résurrection de la Pologne, qui a tellement souffert depuis plus de 100 ans. Et puis, les relations entre le Saint-Siège et l'Italie redeviennent normales. Le pape ne proteste plus contre les visites des souverains étrangers à Rome, au roi d'Italie. Il accepte même une véritable rentrée des catholiques italiens dans la politique. À la fin de 1918, il va même autoriser un prêtre italien, Don Sturzo, a fondé le Parti populaire italien, rassemblant des chrétiens de toute appartenance, se présentant comme un modèle de parti démocrate chrétien. Mais à l'époque, ça a une signification très neuve. Le retour de l'Alsace-Lorraine à la France aussi. Venir la réintégration dans la République de trois départements qui sont marqués par la démocratie et le syndicalisme chrétien. Les catholiques sont restés fidèles à Rome, mais en même temps avec une conception différente de celle de la curie romaine. La guerre a, comme je l'ai dit, atténué le vieil anticléricalisme. Environ 32 000 prêtres religieux et séminaristes avaient servi dans l'armée. Parmi eux, 1500 étaient des aumôniers militaires. 13 000 prêtres étaient infirmiers ou brancardiers. Les autres étaient combattants. La fraternité des tranchées, des dépôts, des hôpitaux, a provoqué un vrai changement de mentalité. C'est ce qu'on appelle l'union sacrée. Au lendemain du conflit, il y a un livre d'or du clergé et des congrégations qui est publié. 1517 religieux sont morts à la guerre, ainsi que 3101 prêtres et séminaristes.
Eh bien, Lucien, nous en restera là pour aujourd'hui.
Voilà.
Nous reviendrons sur cela la semaine prochaine. Merci donc. Au revoir et à bientôt.
À bientôt.
Bâtisseur d'église. Présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église. La découverte de figures emblématiques de notre Église à travers les siècles.